Hello, hello! Comment ça va, mes petites go d'amour? Comment ça va? Comment ça se passe? Comment ils vont les ex? Comment ils vont les ex toxiques? Comment il va le crush? Comment il va le mari très hot? Comment il va le petit ami parfait, en fait? Comment ils vont tout cela? Comment tout le monde va? Bienvenue sur Girls Therapy, l'émission de développement personnel. Très spicy, très Harissa, très pimenté. Ici, vous êtes dans mon journal intime, je raconte ma life, on déconstruit nos petits problèmes de meuf, on en parle tout ensemble et on avance en fait. On est là pour avancer, pour évoluer en fait. Donc bref, bienvenue mes chères girls. Je suis trop contente, vraiment. En fait, j'ai pas fait d'épisode la semaine dernière puisque j'étais en vacances. Je tiens à dire que vous n'êtes peut-être que 10 à m'avoir envoyé un message genre « il n'y a pas d'épisode ce soir ». Parce que vraiment, vous avez grave respecté mes vacances. J'étais en mode, putain, mais genre, c'est mes garces, en fait. Elles m'ont pas du tout écrit en mode, meuf, elle est où l'épisode, en fait. Vous étiez grave cute, donc merci. Alors déjà, on doit faire un point, en fait. Un point, un update life. Une MAP, une mise au point. Alors déjà, les girls, je vous annonce ici. Je l'ai annoncé sur Insta. Si vous êtes passé à côté, c'est pas normal. Mais j'ai annoncé sur Instagram que Girls Therapy a été sélectionné par Spotify pour être dans les 5 podcasts coup de cœur de Spotify. Donc, dans leur projet Radar. Donc, le petit radar de Spotify a kiffé Girls Therapy. Et nous voilà dans cette nouvelle aventure, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Spotify a mis Girls Therapy et 4 autres podcasts incroyables dans ses coups de cœur. Et du coup, bah, jusqu'en novembre, on va être un petit peu copains plus. Et bah, on va faire des choses ensemble et ils vont m'aider à développer le podcast. On va parler de Girls Therapy, on va faire plein de choses. J'ai vraiment hâte de voir. Là, le 14 mai, j'ai un petit dîner pour vraiment les rencontrer les autres copains des podcasts qui ont aussi été sélectionnés. Je vous avoue que je suis extrêmement excitée. Genre, vraiment, je ne pensais pas un jour me dire, eh ben voilà, je suis sur Spotify maintenant, oui. Enfin, j'ai toujours été sur Spotify, mais je veux dire, genre, être repérée et tout, genre, tu vois, genre, une petite ambiance comme ça, j'adore. Et du coup, je vais voir ce que ce qu'on nous réserve. Mais je suis très, très reconnaissante parce que, je vous jure, genre, quand j'ai parlé de mon idée de podcast aux gens, tout le monde était en mode, mais c'est trop bizarre ton idée, genre, tu fais pas d'intro, c'est pas pro, t'as pas de feuilles, tu lis pas, on sait pas s'il y a des invités ou pas, c'est comme tu veux, c'est très bizarre. Mais en fait, moi, bah, c'est ce qui m'anime, c'est le fait que ça soit à ma sauce. Et j'ai vraiment l'impression que ça vous plaît. Et du coup, je suis contente et j'ai envie de me rajouter un peu de challenge et j'aimerais sortir aussi le podcast du dimanche. Je sais pas trop comment on pourrait l'appeler ce podcast du dimanche, genre où on se fait genre, c'est un peu un anti-syndrome du dimanche, tu vois. Genre, un peu l'antidépresseur du dimanche parce que vas-y. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Est-ce que ça pourrait vous chauffer ou pas? Que là, jusqu'en novembre, plus ou moins. Donc, pendant toute la durée de Radar avec Spotify, ben, moi-même, je vais mettre les bouchées doubles et que je sorte aussi un podcast le dimanche. Dites-moi ce que vous en pensez. Genre, vraiment un truc chill. Genre, un truc vraiment accès dev perso, tranquille. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'adore. J'étais une semaine à Ibiza, les girls, avec ma maman. C'était trop sympa. Pardon. J'étais une semaine à Ibiza avec ma maman. Franchement, c'est trop sympa. On s'est grave reposé. Je me suis grave reconnectée un peu à mon énergie magique. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, faire du journaling, manifester, se poser, méditer. Genre, être vraiment là pour moi et vraiment ne pas penser à ce qui va se passer après. Parce qu'on est vraiment dans une société où on pense toujours à demain, à dans une heure, à ce soir, à tout à l'heure. Et en fait, du coup, on ne vit jamais vraiment le moment présent. Je pense que vous connaissez le livre Le Moment Présent. Je sais plus comment il s'appelle l'auteur, mais c'est un livre qui est assez incroyable. Et je trouve que c'est tellement genre important. Et Ibiza, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis partie, comme vous le saviez, je me sentais pas très bien. J'en avais parlé dans le podcast. J'étais un peu dans la salle d'attente de ma vie. Enfin, je me sentais un peu entre deux trucs. Là, je me sens pas spécialement mieux parce que c'est pas une semaine de vacances qui règle tout, mais je me sens plus alignée. Genre, j'ai un peu plus une vision claire de ce que je veux de la vie, de ce que j'attends et de comment je vais aller le chercher, en fait, tu vois. Donc, c'est vrai que c'était pas facile. Je me posais plein de questions. J'étais vraiment dans un mood un peu bizarre. Je suis moins dans ce mood-là, quand même. Tu vois, j'ai vu ma psy et tout ce matin. On a parlé, on a papoté, tout ça. Mais je sens que je me pose beaucoup, beaucoup de questions. Et en fait, en passant cette période un peu chelou, je sais pas, genre j'étais pas mal, tu vois, mais j'étais pas bien, tu vois, j'étais pas mal, j'étais pas bien, j'étais juste là, tu vois, j'étais un peu dans un brouillard, le brouillard de la vie, tu vois, quand la vie te paraît un peu, genre t'as vraiment l'impression qu'il y a un brouillard, qu'il y a un truc qui est pas aligné, et Et en fait, du coup, je me suis dit, putain, j'ai genre grave besoin de voir mes copines, mais d'un côté, j'ai pas trop envie de sortir de chez moi. Genre, j'ai envie d'être seule, mais pas vraiment. Et cette petite phrase, j'ai envie d'être seule, mais pas vraiment, m'a donné envie de créer une chaîne YouTube. Voilà. Je me suis jamais sentie assez bien pour YouTube parce que, vous savez, quand vous êtes une meuf grosse, racisée, qui est sur les réseaux, t'as toujours moins d'opportunités que d'autres personnes, qui rentrent totalement dans les standards, minces, blondes, blanches, etc. Et j'ai toujours eu l'impression que YouTube, c'était vraiment, je sais pas pourquoi, mais un truc où, moi, j'allais pas y arriver. Mais en même temps, j'avais cette impression avec Insta, j'avais cette impression avec le podcast. Je me disais, je suis trop une hot mess girl. Ça veut dire genre bordélique un peu, vous voyez, pour le podcast. Enfin, et finalement, j'y arrive et ça vous plaît. Donc, j'ai un peu cette idée de YouTube. J'avoue que j'ai... Pour le coup, c'est un format qui me fait peur, tu vois. Ouais. Ouais, j'avoue que ça me fait un peu peur. Mais en fait, j'aimerais créer ma chaîne. Enfin, j'ai déjà une chaîne où je mettais quelques vidéos avant, mais ça me parlait pas. J'avais l'impression de faire comme tout le monde, etc. Donc, j'avais arrêté parce que moi, j'aime pas me forcer. Et là, cette petite idée brûlante qui me vient où j'aimerais faire genre une girls night chaîne où en fait je vloguerais genre des soirées que je me fais toute seule parce que je passe pas mal de soirées seule. Moi j'aime bien me faire des petits cocktails, peindre, parler, réfléchir à la vie et je me dis j'aimerais bien faire ça. Et genre des vidéos de 10-15 minutes où en fait on passe un peu la soirée ensemble, on parle de la vie un peu dans la même vibe que Girls Therapy, mais j'aborde pas vraiment de sujet, ce sujet-là. Vraiment juste on passe la soirée ensemble, je vous raconte un peu ma journée, les leçons que j'ai tirées, les stress que j'ai, l'angoisse que j'ai. Et voilà, donc je sais pas trop, s'il vous plaît faites-moi vos retours. Oui, j'attends que vous écriviez sur vos téléphones pour me dire oui à mal ce que j'en pense. Non, mais vraiment, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous consommerez ce genre de contenu? Est-ce que vous pensez que je peux y arriver? Enfin, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, bref, tout ça. Mais voilà, du coup, ça m'a donné un peu cette idée-là. Et je vous dirai en temps voulu comment je me sens. Mais là, je sens que je suis plus vraiment dans le brouillard. Mais je me sens quand même, je sais pas, je suis quand même fort dans une réflexion assez constante. Et en fait, réfléchir beaucoup, c'est extrêmement énergivore. J'ai peur de devenir chauve tellement je réfléchis vraiment, genre. Non mais c'est vrai, ça me fait super peur de me dire, je réfléchis souvent à beaucoup de choses dans ma vie. Je suis en plein truc, en même temps je suis en plein ménage, en même temps je sens qu'il y a un truc qui arrive, en même temps je suis en mode... Donc je sais pas, on en parlera en temps voulu. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de validation masculine parce que cette validation masculine, moi, je trouve qu'elle est vraiment lourde à porter. Et quand j'étais à Ibiza, j'écrivais un peu par rapport à ça parce que j'écris mon prochain livre, un peu genre une vibe de journal intime pour trentenaire, en fait. Et du coup, je parlais de la validation masculine et en fait, on se rend pas compte à quel point c'est un poison, en fait, à quel point, en fait, elle prend de la place dans notre vie. Parce que moi, je me rappelle de moi, la validation masculine, c'est vraiment, en fait, ça prend des aspects sur toute ta personnalité. Et en fait, ça prend de l'espace dans toute ta vie, en fait. Quand tu dates quelqu'un dans lequel tu recherches cette forme de validation masculine, alors oui, je sais que dans tous les formats et tout, on est en mode « ouais, c'est à cause de l'absence d'un père ou d'une présence pas saine d'un père, etc. Daddy issues vibe ». Je pense que oui, en effet, il y a un côté daddy issues parfois. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi juste le fait... Enfin, pour moi, un des trucs, en tout cas, quand je parle pour moi, il y a aussi ce côté de... Je me suis demandé pendant un long moment dans ma vie est-ce que je pouvais être le genre de personne dont on tombait amoureuse. Genre, là, peut-être qu'il y en a qui disent « what the fuck », mais je me demandais clairement, est-ce que moi aussi, j'allais pouvoir rencontrer quelqu'un qui allait tomber éperdument amoureux de moi ? En fait, moi, c'était vraiment mon trigger, c'est que j'avais trop peur que personne ne tombe amoureux de moi. Genre, j'étais persuadée pendant un moment que... Mais en fait, c'était genre le sexe et tout, mais qu'en fait, personne pouvait tomber amoureux de moi. J'avais vraiment cette impression que, non... Personne pouvait tomber amoureux de moi, que je pensais que j'étais le genre de femme dont les hommes tombaient pas amoureux, que j'étais vraiment juste soit une très bonne amie, soit un très bon flirt, soit un très bon plan cul, soit voilà. Et je sais que ça vient vraiment de cette impression de me dire que personne ne pourrait tomber amoureux de moi. Et en même temps, en fait, je vous avais déjà parlé un peu de la peur de l'engagement, etc. Parce que y a un moment où j'ai compris que c'était faux, en fait, ce que je me disais. Mais du coup, comment je peux expliquer ça? Genre, il y a toute une partie de ma vie où je me suis dit, mais est-ce qu'on peut vraiment tomber amoureux de moi? Genre, quand je regardais vraiment les films romantiques à la télé et tout, je me disais, mais est-ce que quelqu'un pourra un jour me regarder comme ça, m'apprécier comme ça, me truquer comme ça? Et une fois que je me suis dit, ouais, en fait, c'est totalement possible, je me prends la tête pour rien, j'ai commencé à avoir peur de l'engagement parce qu'en fait, maintenant, il fallait se dévoiler. et que j'avais compris qu'en fait, pour qu'on tombe amoureux de soi, il faut se montrer vulnérable. Et en fait, c'est tellement compliqué de se montrer vulnérable. C'est tellement challengeant de pouvoir se mettre à nu, de pouvoir être soi-même, etc., etc. Mais en fait, du coup, pour me protéger, au cas où personne ne tomberait amoureux de moi, je m'étais mis dans un truc un peu bad bitch, genre je m'en fous des hommes, nanani, nanana. Alors aujourd'hui, c'est un peu, enfin, aujourd'hui, c'est un peu, je suis un peu détachée, etc. Enfin, je mets pas toute ma vie par rapport à ma vie sentimentale, faut que je vous le dise, mais je sais que du coup, une chose a entraîné une autre, c'est que déjà moi, j'étais persuadée, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà pensé comme moi, mais moi j'étais persuadée qu'il fallait que je sois parfaite pour qu'on tombe amoureux de moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre dans des histoires de vouloir toujours plus maigrir, de vouloir toujours être mieux, de vouloir toujours être mieux. J'ai toujours voulu être mieux parce que je me disais, il faut que je sois au top pour qu'on tombe amoureux de moi. Genre à aucun moment dans cette période de ma vie, je me disais, girl, t'es intelligente, t'es brillante, t'es drôle, t'es ambitieuse, t'es nanani, nanana. J'étais juste drainée par le fait qu'en fait, il fallait juste... Enfin, en fait, à aucun moment, je pensais à ma personnalité. J'étais juste en mode, faut que je sois la plus belle possible pour que quelqu'un tombe amoureux de moi. Et en fait, j'avais vraiment ce besoin qu'on m'aime, et j'avais vraiment ce besoin. Et c'est pour ça que quand je datais des mecs ou que je sortais avec des mecs, je leur disais, tu m'aimes plus moi ou ton ex ? Alors, chose que je ne poserai jamais aujourd'hui parce que c'est pas du tout sain, en vrai. Sauf si tu le poses vraiment de manière bienveillante et que t'as vraiment envie de savoir un peu comment l'autre a aimé l'autre. Mais croire qu'on aime des personnes de la même manière, plus fort ou moins fort, c'est vrai que c'est un petit peu rétro. Hein, on va pas se mentir. Mais du coup, c'est vrai que j'étais grave dans cette énergie-là de est-ce que tu m'aimes plus moi ou elle ? Est-ce que tu nanani ? Est-ce que nanana ? Genre, j'avais tellement besoin de cette validation. J'avais besoin que quelqu'un me dise qu'il était amoureux de moi. Quitte à me mentir à moi-même et me faire croire que ce mec-là était amoureux de moi, mais il avait trop peur pour le dire. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Donc, par exemple, je vais vous raconter une anecdote de fou malade. Mais là, vous dites, ouais, elle va nous raconter une petite anecdote. Non, non, c'est une anecdote de bâtard. Genre... bah j'étais gosse, hein. J'avais 17, 18 ans, enfin je sais plus. Surtout pas reproduire, grande erreur, je ne le ferai plus jamais. Mais je sais pas, non, j'avais pas 17, 18, j'abuse. J'avais 21. J'avais 21, je crois, je sais plus. Non, non, j'étais un peu adulte. Et en fait, j'avais un groupe de copines, etc. Et en fait, j'avais une pote à moi qui vivait dans le même immeuble que le mec que je voyais. Et j'ai déjà parlé de ce mec ou pas ? Ouais, je crois que c'est fustinant, c'est coca. Et du coup, vous savez, j'ai un podcast où je parle des deux mecs un peu micmac de ma vie. Et bah, c'était un des deux. Je sais plus, je crois que c'est Coca. Et du coup, en gros, bref, je détais Coca, mais vous savez que c'était toujours des up and down. Genre, à un moment donné, le mec, il me veut. À un moment donné, il me veut plus. À un moment donné, il est en mode yes. À un moment donné, il est en mode no, bitch. Enfin, voilà. Je crois que j'avais fait une liste. Attendez, je vais regarder sur mon téléphone. Je crois que j'avais fait une genre de liste de toutes les choses connes que j'ai faites. Attendez. Mais j'étais vraiment tellement mal dans ma peau et genre tellement what the fuck. Non, c'était pas. C'était genre en 2024 que j'ai fait cette liste. J'ai tellement de listes sur mon téléphone, mais pourquoi je fais autant de listes ? Non, mais je crois que je l'ai plus. Hein. Je crois que je l'ai plus, ça m'énerve. Non, mais je crois que je l'ai plus, cette liste. Bon, bref, c'est pas grave, on va retrouver. Est-ce que c'est pas dans les supprimer ? Genre, j'essaie de faire la meuf qui fait, genre, qui s'organise et tout. Oui, voilà. Ah ouais, non mais, ouais, ouais putain, j'avais fait une liste, les dingueries que mon ex m'a fait faire. Mais du coup, la première chose que j'ai mis sur cette liste, c'est ça. Après, c'est pas lui qui me l'a fait faire, là, je dois prendre la responsabilité. Mais en gros, j'avais un groupe de copines, et on squattait tout le temps chez une pote. Et cette pote vivait dans l'immeuble de mon ex, tu vois. Mais c'était mon ex, mais tu vois, c'était genre situationship. Pour celles qui savent pas ce que ça veut dire situationship, c'est quand vous n'êtes pas en relationship, donc amoureux, vous n'êtes pas en relation amoureuse, mais vous n'êtes pas pote non plus, vous êtes vraiment dans oui, non, chaud, froid, froid, chaud, etc. Donc bref, on se datait, mais en fait, c'était des up and down, je te veux pas, fuis-moi, nanani, nanana, fuis-moi, que des trucs hyper toxiques dans lesquels aujourd'hui, je me remettrai plus jamais. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, je crois que c'était du désespoir, je sais pas, j'ai tellement honte de raconter cette histoire, mais en gros, genre, j'ai une pote qui me dit, ouais, j'ai le compte de ma cousine, enfin genre, j'ai pris les photos de ma cousine, elle est totalement d'accord et tout, mais genre, c'est un petit compte fake qu'on utilise pour tester nos mecs et tout, est-ce que tu voudrais pas parler avec Coca ? Et du coup, je suis en mode, vas-y, je suis chaude et tout, donc bref, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je lui ai écrit, enfin, je like quelques photos, il vient me parler, etc., Et en fait, cette meuf, c'est vraiment totalement, totalement son style. Genre, elle est tellement, genre, fraîche. Lui, il aimait bien les meufs que moi, je ne suis pas. Genre, c'est très joli aussi, mais c'est pas moi. Genre, beaucoup d'artificiel, en fait. Il aimait beaucoup ça. Les longs faux ongles, les faux cils, les fausses lèvres, une poitrine refaite, des cheveux longs, extensions, etc. Il aimait beaucoup. C'est vraiment son style de femme. Et moi, je n'étais absolument pas ça. Mais justement, comme j'avais énormément besoin de validation, je voulais absolument ressembler à ça. Donc pendant genre 6 mois, j'avais fait des extensions de cils qui me grattaient les yeux. J'en pouvais plus, j'étais en souffrance. J'ai des tout petits yeux, moi. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, j'ai des yeux en amande et vraiment pas grands. J'ai pas les plus beaux yeux du monde. Enfin, je trouve pas, tu vois. Et je trouve que j'ai un beau regard, mais j'ai pas spécialement des yeux waouh, tu vois. Mais bref. Mais du coup, j'étais en mode, je faisais des extensions de cils, etc. Je faisais pousser grave mes cheveux. Enfin, bref, je faisais des trucs de ouf pour être validée physiquement par cette personne. Parce que la validation, ça te pousse aussi à te dire, qu'est-ce que cette personne aime, et une fois que tu as les réponses de qu'est-ce que cette personne aime, tu vas essayer de devenir ce qu'il aime. Mais du coup, en fait, tu ne te demandes vraiment plus du tout qu'est-ce que toi tu es, mais tu demandes qu'est-ce que cette personne veut. Et du coup, ta priorité est de combler ce que l'autre veut et plus du tout de être qui tu es toi vraiment. Et tu préfères la validation masculine, elle est tellement toxique que tu préfères être aimé pour qui tu n'es pas que ne juste ne pas être aimé. Tu préfères être aimé, apprécié pour qui tu n'es pas et pour qui tu ne seras jamais. Et ça, c'est extrêmement violent. Enfin bref. Donc le mec, il me faisait que des dingueries. Hein. Vous vous rappelez, je vous avais un petit peu raconté, mais genre, on s'était vu au Maroc à un moment. Il m'a littéralement trompée devant mes yeux. Enfin bref, vraiment, c'était... Il avait couché avec une meuf, la fenêtre ouverte. Donc, comme on était dans l'appart de ma copine qui habite à côté de lui, on l'entendait niquer une autre meuf. Enfin bref, on n'était pas ensemble, mais il y avait quand même un truc entre nous tout le temps. Bref, genre vraiment, le mec m'a tout fait. Il m'a tout refilé, même des IST. Genre, il m'a tout refilé, le mec. Vraiment, il a pas été réglo de rien du tout. Et à ce moment-là, moi, du coup, je me laisse porter par la proposition de ma copine. Puis j'en avais très envie, faut pas se mentir, mais ça pas à reproduire. Et la cousine, elle était d'accord. La cousine, elle est très fraîche, elle est machin. Bref, voilà. Donc, je prends le compte Instagram, je vais liker quelques photos de Coca. Coca saute sur l'occasion, il s'abonne, je m'abonne. C'était sur Instagram. Donc, je commence à lui parler. Donc, je m'invente toute une vie. Je lui dis que je suis prothésiste ongulaire. Je sais pas ce que je lui dis. Enfin, bref. Et en fait, je parle avec lui et parfois, il est dans la même pièce que moi, genre. Oh, il est dans la même pièce que moi et parfois, je lui parle, je réponds à ses messages, etc., etc. Enfin, bref, tout un truc. Et du coup, je vois à quel point il est gentil. Et ça, c'est un truc que j'ai pas accepté tout de suite. Mais en fait, au début, ça nous faisait rire avec les filles, etc. On était en mode, putain, il est à fond et tout. Mais en fait... C'est horrible comment, avec moi, il galère à communiquer, il galère à être présent émotionnellement, il galère à être clair avec moi, à me dire non, oui. Et par contre, parler avec cette meuf qu'il n'a jamais vue, il est totalement à fond. Il se trouve, là, vous dites, mais comment il t'a pas cramé, genre, parce qu'on était tout le temps ensemble, on avait la même bande de potes et tout. C'est que, en fait, on avait un pote qui, moi, je l'ai détecté depuis le début, c'était un petit peu un menteur qui aimait bien prouver à ses potes, mec, ouais, j'ai baisé voilà les meufs, j'ai fait voilà des trucs, nanani, nanana. Genre, c'est le genre de mec qui va dire, ouais, j'ai bu 14 bouteilles, enfin, tu vois, l'alcool est dangereux pour la santé, interdit au moins de 18 ans. Mais bref, c'est genre de mec qui aime bien, vous voyez ce genre de mec, les mythomanes, mais genre mythomanes de virilité, genre, que ouais, j'ai fumé ça, j'ai bu ça, j'ai couché avec 14 meufs le même soir et tout. Et du coup, Coca, il dit « Ouais, je sais pas si cette meuf, j'ai peur que ça soit un fake et tout. » Moi, j'aime oh. Et là, en fait, ce mec, le menteur, il veut tellement prouver qu'il dit « Mais je la connais, je la connais. J'ai un pote, là, ouais, qu'il avait daté une fois et tout. Nanani, nanana, nanani. » Du coup, là, c'est bon. En fait, comme le mythomane, il est en mode « Ouais, je la connais. » Parce que vous connaissez ce genre de mec, je la connais sur Snapchat. Donc, il se dit « C'est bon. » Et en fait, à ce moment-là, enfin, j'ai tellement honte, mais qui m'a envoyé vivre ça, s'il vous plaît, j'ai tellement honte, comment je peux le dire à autant de personnes, s'il vous plaît, me jugez pas, j'étais jeune et validation masculine. Je manquais clairement d'amour propre. Et à ce moment-là, du coup, on fait croire à Coca, suivez bien, on fait croire à Coca que la meuf avec qui il est en train de parler, qui est la cousine de machin, machin, donc en fait, elle n'a pas le temps pour lui. En vrai, c'est moi qui lui parle. Enfin, moi et toutes mes copines. On était toutes à prendre le téléphone et à parler, à écrire n'importe quoi. Enfin, c'était horrible. Et lui, il est à fond, le mec. Il est à fond. T'as jamais vu ça? Et ben en fait, j'avais tellement chaud quand il me faisait des vocaux. J'étais en mode, je peux pas répondre avec ma voix. Genre, il va la reconnaître. Enfin, bref. Et en fait, on a fait croire à Coca que la meuf avec qui il était en train de parler, qui était la cousine d'une pote, mais qui en fait, elle nous avait juste dit « Oui, vous inquiétez pas, utilisez mes photos pour le fake », mais elle lui parlait pas, c'était nous. Et bien en fait, on lui a fait croire que deux de nos copines étaient à l'école avec cette meuf. Et que du coup, regardez jusqu'où ça a été, hein, c'est fucked up. On a fait croire que du coup, nos deux potes en commun, qui existent vraiment, hein, nos deux potes, connaissent ce genre de fake là, ce genre de cousine fake, et qu'elles, les copines lui ont dit que c'était un bâtard, qu'il avait fait souffrir une de leurs copines. Moi, je me suis mis dans l'histoire. J'ai osé me citer parce que j'avais envie de voir comment il parlait de moi. Genre. Du coup, j'ai fait cette dinguerie-là. Oui, ça, c'est très grave, mais c'est pas fini. Hein. C'est encore pire après. C'est que, les meufs, soi-disant mes potes, elles disent à Coca, ouais, on la connaît. Ben, on lui a dit hein, que t'es un gros bâtard, que t'as fait souffrir à mal, machin et tout. Et elle, la cousine fake, elle confirme, alias moi et mes copines, on me dit ouais c'est grave vrai, enfin on dit ouais moi ça me fait un peu peur, t'as fait souffrir une meuf que je connais via, ça me fait peur et tout. Il est en mode putain c'est une dinguerie, c'est pas exactement ça, moi je la respecte de ouf, etc. Et moi dans tout ça je voyais que je la respecte de ouf, j'étais en mode oh là là, vous avez vu les filles, elle a dit qu'ils me respectent. Pourquoi il y a aucune de mes copines qui m'a giflé à ce moment-là, genre c'était horrible. Bref, c'est pas fini les filles, le pire arrive. À partir de ce moment-là, non mais vous n'êtes pas prête, genre. À partir de ce moment-là, je fais semblant d'aller en boîte, dans une boîte très connue à Bruxelles qui s'appelle le Bloody Louise, qui était vraiment la maison quand je vivais à Bruxelles. Je vais dans cette boîte et je fais croire à Coca, et enfin, on fait croire avec mes copines, donc les deux qui étaient à l'école avec elle, etc., qu'on l'a croisée et qu'elle est en boîte avec nous. Donc lui, il commence à paniquer et à dire « Ouais, qu'est-ce qu'elle vous dit? Moi, je l'aime trop et tout, machin. » Et là, la validation masculine, elle va tellement loin que je voulais qu'il me voie comme la bonne personne de l'histoire. Et du coup, j'étais en mode « Ouais, t'inquiète pas, je lui ai dit que t'étais quelqu'un de bien, qu'il n'y avait rien eu entre nous et tout. Ah, » mais sale folasse, va. Je lui ai dit genre « Ouais, t'inquiète, je lui ai dit ça, nanani, nanana. » Et du coup, genre, il me parlait grave de ouf. J'étais en mode « Mais merci, putain, t'es vraiment le sang, genre... » Merci beaucoup, genre grâce à toi je vais pouvoir la gérer, franchement c'est incroyable que t'aies dit ça, franchement t'es une icône et tout, genre je suis trop... Et moi j'étais contente, et j'étais putain de contente là à ce moment-là, j'étais en mode putain je gère et tout, nanani, nan. Bon bref, après bon on lui a avoué que c'était un fake, enfin voilà je lui ai dit écoute babe, c'était moi quoi, voilà. Il était en mode putain j'y crois pas, j'étais en mode ouais je suis désolée, il est en mode putain tu casses les couilles, j'étais en mode bah ouais je sais désolée je voulais voir. Il m'a dit tu voulais voir quoi, j'étais en mode bah toi, et puis voilà. Donc bref, après on s'est rabiboché, hein, n'importe quoi, il fallait vraiment que ça s'arrête cette histoire. Donc je lui ai avoué, on a rendu le compte à la cousine a été faire sa vie, on a arrêté cette histoire à ne pas reproduire. Je me demande même si c'est légal, donc à ne pas reproduire, s'il vous plaît. Ne prenez jamais les photos de qui que ce soit pour faire des fakes. Je vous rappelle que c'est illégal. Mais bon, nous, c'était la cousine, mais quand même, tu vois. Genre, ne parlez pas à quelqu'un si c'est pas vous, quoi. Mais j'étais jeune et perdue. Voilà, désolée. J'ai très honte de cette histoire, mais je pense qu'il faut montrer à quel point la validation masculine, elle va loin parfois. Parce que là, j'ai voulu. Je m'en foutais qu'il était en train de draguer une autre meuf. Bon, même si elle n'était pas vraiment là. Mais j'étais tellement ouf que je me suis fait passer pour la gentille de l'histoire qui lui dit à l'autre « Ouais, non mais c'est un gars trop bien, t'inquiète, tu peux sortir avec lui » pour faire genre que c'est moi qui les a mis ensemble pour qu'il me soit redevable. Et je lui rendais tout le temps des services comme ça. Aujourd'hui, je vous jure qu'à peine un mec qui me dit « Ouais, va me chercher de l'eau », je suis en mode « Pardon, c'est un virement, wesh ». Je rigole. Mais parce que je vais vous dire quelque chose qui est très dur à entendre et je sais pas si tout le monde a envie de l'entendre. Et je suis désolée si vous n'êtes pas prête à l'entendre, mais les hommes ne sont reconnaissants de rien. Ouais, je sais que c'est très compliqué, mais avec la société patriarcale dans laquelle on grandit, les hommes n'apprennent pas à être reconnaissants. Justement, les hommes hot, gentils, bien, eux, ce qui les rend gentils et bien, sans vous en rendre compte, hein, un des critères, c'est qu'ils sont reconnaissants de vous avoir dans leur vie. Parce qu'il vous faut ce genre de mec qui dit « Putain, je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie, tu vois. » C'est pas le seul critère. Vous voyez, quand je vous dis ça, pensez pas que ça se tient tout seul. Il faut plein de choses pour que la relation fonctionne. Mais je veux dire, les mecs, de base, ceux qui profitent du système patriarcal et qui sont un peu gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagn vous l'acceptez ou pas, mais les mecs ne sont pas reconnaissants. Je sais que ça va vous choquer. J'y ai essayé. Avec ce mec, la coca, j'étais hyper serviable. Je lui faisais à manger. Enfin, ma mère faisait à manger. Je lui faisais croire que je faisais à manger. D'ailleurs, ma mère est avec moi. Elle m'en a reparlé de cette histoire. J'ai eu très honte. J'essayais de lui rendre tous les services possibles. même une fois, il a été, donc on était vraiment séparés, et il s'est mis avec une meuf, et cette meuf est venue le voir à Bruxelles. Et du coup, bah, je me suis coltinée cette meuf pendant 4 jours, et j'ai accepté d'aller faire du shopping avec elle, enfin moi et toutes mes copines, sans que cette meuf déjà sache que nous, on avait des trucs ensemble, pour que lui puisse un peu s'en débarrasser, parce qu'il était en mode, ouais, j'en ai marre, ça fait 4 jours, on est ensemble et tout, allez, sortez là, on se rejoint ce soir. J'avais accepté de passer une après-midi avec cette meuf qui représentait à ce moment-là une énorme source de douleur pour moi parce que bah, il sortait avec elle. Et tout ce que j'avais en tête, non mais je vais être très honnête parce que ici c'est comme ça, c'est que ce que je voulais juste, je mettais de côté ma douleur et mon besoin de deuil et mon besoin de temps et mes limites. Je voulais juste qu'il me trouve plus belle qu'elle. Non mais je vous jure les filles, c'est vraiment, c'est vrai. Je voulais juste qu'il me trouve plus belle qu'elle et qu'il se dise putain, nan, nan. Et c'est ce qui s'est passé après, c'est qu'après il l'a quitté, enfin carrément il l'a quitté devant moi par message Snapchat, voilà. Donc déjà ridicule le mec, aujourd'hui un mec fait ça, j'en veux pas. Parce qu'il m'a dit non mais en vrai quand je te regarde, genre on était à une soirée bowling, elle était là, il était en mode putain t'es tellement belle, genre tu m'en ouf et tout. Mais moi je m'étais préparée pendant 4 semaines en fait. Mon but à cette soirée-là, c'était pas de m'écouter, de poser mes limites, d'expliquer que en fait le mec il est en train d'abuser du bail et que je me suis déjà assez fait vider énergétiquement et que le mec il est clairement toxique. Après moi aussi je faisais des bails pas très clairs, mais j'avais vraiment besoin de sa validation. Et ben en fait, non, mon but c'était juste qu'il me trouve plus belle qu'elle. Donc j'avais, j'étais étudiante à l'époque, j'avais mis 100 balles dans une tenue complète, nanani nanana, coiffeur, ongles, je voulais juste qu'il me trouve plus belle qu'elle. Et encore là, ce qui me blesse en vous en parlant, je vous jure, c'est qu'encore une fois, ce soir-là, j'ai absolument pas respecté mon style. Moi, j'ai grandi en Italie, j'aime la mode, j'aime Carrie Bradshaw, j'aime Sex and the City, j'ai toujours aimé être complètement décalée. Même à l'école, je me faisais harceler parce que j'aimais bien m'habiller d'une certaine façon très pointue, très mode, et qu'à Bruxelles, les gens sont pas tous sensibles à la mode, enfin c'est pas comme en Italie quoi, c'est ça que je veux dire. Et je me faisais harceler littéralement pour mes outfits, et quand je l'ai rencontré je me suis tellement calmée, j'étais tout le temps habillée en noir, en beige, en gris, parce que je sais que c'est ce qu'il aimait. Il aimait pas les trucs fantasy, il aimait pas la mode genre comme ça, il aimait les femmes élégantes. Et du coup bah, moi en fait j'arrêtais pas de me rentrer dans ce rôle là alors que je suis pas ce genre de meuf. Je rigole fort, je parle fort, je m'écroule par terre de rire, je fais des bêtises, je suis un enfant pour toujours, j'aime m'amuser dans la mode, j'aime mettre des robes, j'aime mettre des choses, j'aime m'amuser. Et ben je me suis jamais permise de l'être avec cette personne. Je me suis jamais permise d'être qui je suis vraiment. Je me suis toujours d'une manière ou d'une autre étouffée pour la validation masculine. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui m'intéressait, c'est qu'il me trouve plus belle qu'une telle, une telle, une telle, une telle, et qu'il me donne sa validation, qu'il me valide, qu'il me donne cette validation. Et ça, je vous le dis, les hommes ne sont pas reconnaissants, babes. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Quand vous faites des choses pour eux, comme ça, tout naturellement, tout spontanément, ils ne disent pas « Waouh !» Non, non, non. Alors, il y a des mecs qui, oui, parce que vous avez appris à rentrer dans une relation amoureuse et que vous faites tout de suite comprendre « What you bring to the table », tu sais ce que tu ramènes, tu sais comment tu le ramènes, et t'es sûr de soi et tu sais t'estimer. Quand ils sont face à des femmes qui savent s'estimer, bah, du coup, bien sûr, ils sont reconnaissants. Mais si vous montrez... Si vous montrez que vous rendez des services à tout va, que vous faites des mains et des pieds pour s'organiser pour eux, et ben en fait, ils seront jamais reconnaissants. Les hommes, ça marche comme ça. Vous savez que je suis pas une grande adepte de... j'ai l'impression de faire une vidéo TikTok. Les hommes ne fonctionnent pas comme ça et tu as besoin de savoir. Mais quand je vous dis ça, c'est vraiment que j'ai mené une étude dans ma tête, que j'ai vraiment dans mon métier de love coach et de sexologue, j'ai fait des bilans, voilà, et que je me suis dit, les girls, ils sont pas reconnaissants pour rien. Ils sont pas reconnaissants pour rien. Ils sont pas reconnaissants à tout va. Alors que nous, les femmes, on est reconnaissantes très rapidement. Parce que la société nous a appris à être très reconnaissantes. Merci, 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 merci. Alors en fait, d'abord, travaillons sur notre propre gratitude bitch, en fait, comme j'aime l'appeler. Et comme je vais l'appeler dans ma marque Papier Stiletto, c'est vraiment gratitude bitch, en fait. Soyons grateful pour nous-mêmes. Soyons grateful pour ce qu'on fait nous. Et puis soyons reconnaissantes pour ce qu'un homme fait. Et ne soyons pas reconnaissantes pour la base. Arrêtons d'être contentes pour la base, le strict minimum. Les hommes ne sont pas reconnaissants pour le strict minimum. Ils le deviennent, ils l'apprennent quand ils évoluent, quand vous êtes face à quelqu'un de mature émotionnellement, quand vous êtes face à quelqu'un qui comprend telle ou telle chose. Tout ça, c'est de la maturité émotionnelle. Et ça, c'est un des premiers critères pour moi universels que je recommande à toutes les femmes. Choisissez un homme mature émotionnellement. C'est vraiment pour moi la base des bases, des bases, des bases. C'est super important. Mais vous voyez, toutes ces histoires sont bien drôles et on s'est tapé des barres avec mon histoire de fake cousine bizarre là. Mais en vrai... c'est tellement pas sain, c'est tellement pas ok de se nourrir comme ça de la validation. Et par validation, j'ai pas fait que ça, ça c'était avec Coca, mais je l'ai fait avec d'autres mecs. Sexuellement par exemple, hein, la zone grise du consentement. Enfin, j'étais consentante, mais j'étais pas consentante avec moi-même. Genre, parfois, je m'envoie en l'air. Oui, j'étais consentante de le faire avec le mec qui m'a pas, genre, agressé ou quoi. Mais j'étais pas vraiment consentante dans moi-même. Je l'ai pas exprimé, je l'ai pas montré. Mais je sais que je me forçais parce que j'avais envie qu'il me valide, qu'il dise, ouais, elle aime bien le cul, etc., etc. Et du coup, je me forçais là-dedans. Et j'étais en mode, bon, ben voilà. Et par exemple, quand on a une image très forte en sexualité, genre en date, on parle à l'aise de sexualité, etc., il faut faire attention parce qu'après, on rentre dans un tourbillon, on a l'impression qu'on doit du coup se montrer avec une libido super puissante. Regarde, moi, j'aime trop Ken, blablabla, blablabla, blablabla. En fait, non. C'est pas parce que tu dis quelque chose que tu dois l'incarner jusqu'à la fin. C'est pas parce qu'au premier date, tu t'es présenté comme ça et qu'il a kiffé ce que tu viens de dire que tu dois l'être pendant un an, deux ans de relation. T'as le droit de changer ou juste de ne pas avoir envie par des moments. Mais moi, je sais que par exemple, enfin, c'est hyper violent ce que je vais dire, donc trigger warning sexe, mais je sais que par exemple, la première fois que j'ai fait genre une pratique anale, eh ben, j'étais pas totalement chaude. Genre, j'aime bien, tu vois. J'aime bien, franchement, moi je trouve ça très sympathique. Mais voilà, il faut être préparé, il faut préparer son corps, il faut être préparé mentalement, etc. Et je suis sortie avec un mec pour qui c'était un fantasme. Et du coup, j'étais en mode, ok, vas-y, etc. Mais parce que il avait eu le malheur de me dire, ouais, mon ex, elle aimait trop ça, on faisait tout le temps ça. Tu vois où je veux en arriver ? Là où je veux arriver, c'est que la première fois que j'ai fait cette pratique, j'étais vraiment en mode, ok, j'ai envie. Mais j'ai envie, mais pas là, tu vois, j'ai envie de manière générale. Lui, je lui ai dit oui, oui, j'ai trop envie, trop hâte et tout, donc il n'a pas pu comprendre ce que je ressentais, mais je me suis auto-violée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je me suis auto-pas respectée. Oula, voilà, j'avais besoin de faire ça. Je me suis auto-pas respectée, en fait. J'étais dans un truc où, en fait, je suis venue moi-même me forcer. Le mec, je lui ai dit oui, etc. Tu vois, il y a pas eu de, je l'ai pas vécu comme une agression. Mais ce que je veux dire, c'est que au fond de moi-même, oui, parce que je me forçais pour être validée. Donc oui, je vais être honnête. La première fois que j'ai une expérience anale, même si aujourd'hui j'aime bien ça, je trouve ça très sympa. Et voilà. Mais il faut être préparé. En plus, je suis sexologue, donc je le sais. Enfin, à l'époque, je l'étais pas, mais voilà, il faut être préparé. Il faut savoir ce qu'on fait. C'est pas anodin. Il faut une certaine préparation mentale, physique, émotionnelle aussi. On n'est pas obligé de le faire. On peut juste ne pas aimer ça même avant de l'avoir fait, parce que parfois, dans le sexe, c'est comme ça. On peut ne pas aimer quelque chose qu'on a même jamais essayé. C'est pas grave, hein. C'est comme ça. C'est comme il y a peut-être un truc que vous aimez pas manger, mais vous l'avez jamais goûté, mais vous savez que vous aimez pas. C'est comme ça. C'est votre intuition. Vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. Et à ce moment-là, je me suis forcée pour me faire valider, pour que dans sa tête ils se disent, putain, j'ai une bête de meuf, elle fait plein de trucs, etc. Je me suis forcée. Mais genre, moi qui adore le sexe oral, le sexe non pénétratif, la fellation, etc., vous-même, vous savez. Et d'ailleurs, je donne une masterclass le 12 mai, donc venez, s'il vous plaît. Enfin, bref. Mais moi qui adore ça, il y a des relations où le mec aimait tellement ça tout le temps, genre tous les 2-3 jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que moi-même, j'avais même pas envie de baiser spécialement, j'avais envie de me poser. Mais comme je savais que lui, les messages, je me forçais. C'est pas bien. On mérite pas de se auto-détruire pour la validation masculine. Donc ça, c'est vraiment du côté sexuel, mais il y a eu aussi du côté émotionnel. Dans le rendre les services, comme je vous disais avec Coca, j'essayais grave de lui rendre des services pour qu'il me trouve utile. Je voulais lui donner des raisons de m'aimer. Je voulais lui donner des raisons de me voir. Je voulais lui donner des raisons de voir qui j'étais et quelle utilité je pouvais avoir dans sa vie. Par exemple, à un moment, il avait eu un problème scolaire. J'étais littéralement débordée. Je venais de lancer ma boîte. J'étais en études de sage-femme. J'avais mille et un trucs à faire. Et il a eu besoin de moi pour faire un espèce de recours à l'université. Et ben, j'ai tout mis en pause alors que je sortais d'une garde d'hôpital de 12 heures et je me suis posée avec lui pour faire ça. Je voulais qu'il me trouve utile. Je voulais qu'il me trouve intéressante et utile dans sa vie. Je voulais pas qu'il se dise que je servais à rien, etc. Je voulais lui donner des raisons de m'aimer. Je voulais absolument qu'il trouve quelque chose en moi, parce que moi-même j'étais incapable de voir ce qu'il y avait en moi. Moi-même j'étouffais ce qu'il y avait en moi, et du coup je recherchais des choses dans les yeux des autres que je ne trouverais jamais, parce que quand quelqu'un n'a pas envie de t'aimer ou qu'il n'est pas amoureux de toi, il va pas le tomber du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça se passe. L'amour, c'est une chose, construire une relation, c'en est une autre. Mais les choses, l'amour, c'est quelque chose qui est chimique. Ça se met en place ou pas. Il peut être sain, il peut être toxique, il peut être neutre, il peut être très cool, mais on n'est pas heureux. Enfin, l'amour peut être mille et une choses. Et en fait, c'est dans ces mille et une choses, j'ai perdu une part de moi-même. Parce qu'à force de vouloir donner une définition de l'amour, à force de vouloir qu'on m'aime d'une manière ou d'une autre, peu importe, juste qu'on m'aime, et que j'ai fini en fait par m'envoyer en l'air pour qu'on m'aime, rendre des services pour qu'on m'aime, changer ma manière d'être pour qu'on m'aime. Et à force de chercher dans ces mille et une façons d'aimer, j'ai oublié la première façon d'aimer, c'est de s'aimer soi-même, même si c'est pas suffisant, vous le savez, je le dis souvent. Mais en plus de se perdre et de me rappeler et l'amour et l'empathie infinie que j'ai pour la jeune Amal, qui n'est plus du tout celle que je suis aujourd'hui, mais ce besoin de voir quelque chose dans les yeux des hommes, quelque chose de fort, quelque chose d'unique, comme dans les films, je le consommais, je le voyais, je l'observais, j'avais envie de ressentir ça. Et j'étais prête à sortir toute ma boîte à outils pour voir ça, et pour voir qu'on m'aimait d'une manière ou d'une autre. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ouf, en fait, quand je vous en parle, là, je me dis, mais c'est ouf, tout ce que j'ai fait, des mains et des pieds, pour voir une sorte d'amour qui, en fait, n'est pas de l'amour. C'est que les hommes sont intelligents, sont malins, et du coup, ils se disent, bah tiens, en fait, elle est à donf, elle me rend plein de services, elle est à fond, donc voilà. Aujourd'hui, quand je date un homme, je ne lui rends pas de service. Le service que je lui rends, c'est que je suis là, déjà, hein, que je parle avec lui, que je le date. Et quand il aura donné, je donne. Donne, je donne, donne, je donne. Tu fais un pas, j'en fais un. T'en fais deux, j'en fais deux. Vas-y, pas de souci. Mais en sachant que les hommes sont privilégiés en amour. Et ça, je l'avais bien compris. Et ce que je voulais, c'était m'assurer que quelqu'un m'aime. Et je me mettais dans tous mes états. Parce que la validation masculine, c'est pas juste « ouais, je veux que les mecs m'aiment ». C'est en partie ça. Mais c'est en partie des régimes, des changements, des choix. Tout le temps devoir mettre en avant quelque chose pour essayer d'impressionner, de plaire, mettre en avant sa sexualité et oublier que c'est sa sexualité, pas la sienne, donner sa sexualité pour y trouver une forme de validation et puis ne pas comprendre pourquoi après chaque rapport il y a toujours un sentiment de vide et toujours continuer à se demander mais qu'est-ce qui est en train de se passer et toujours se donner plus, 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 se sentir quasi essoufflé mais continuer à avoir un truc en tête, je veux qu'on m'aime. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on voit en moi mon potentiel, je veux qu'on voit en moi une forme de copine parfaite. Alors qu'en fait, pas du tout, la personne sait déjà depuis le début qu'elle ne verra jamais ça en toi. Elle a juste vu en toi, les hommes, je vais être très cash, une occasion de ken, pour beaucoup, hein, c'est comme ça, faut le dire, et une occasion d'avoir une certaine affection féminine et une femme qui est là, qui est derrière eux, etc. Et c'est pour ça qu'ils vous font traîner en bourrique pendant des mois, voire des années, parfois, Mais... je pense que le plus beau cadeau que je me suis faite, c'est savoir ce que je vaux. Parce que la confiance en soi, c'est pas être grosse ou mince. C'est savoir s'estimer. Qu'est-ce que j'apporte ? Je connais mes défauts, mais je connais mes qualités et je sais ce que j'apporte. Et qu'aujourd'hui, plus jamais, je veux me regarder dans un miroir avec cette dureté que j'avais dans les yeux à l'époque, en me disant, si tu perdais un petit peu ça, il t'aimerait, si tu ferais ça. Et croire, et faire croire aux autres qu'il suffit de faire une chose pour qu'on nous aime, un truc de plus, allez, encore un. Genre, vas-y, change ça, fais ça, dis ça, écoute ça, regarde ça, mets cette story, mets ce post, il t'aimera. Faire croire ça aux femmes, je pense que c'est la plus grande arnaque de notre siècle. À mardi prochain, les girls.